On rejoint Yves François Blanchette pour la chronique politique. Bon matin, François.
Bien, bonjour, madame.
On parle d'un sondage ce matin que je n'avais pas vu du tout, du tout.
Ben, il y a bien du monde qui ne l'avait pas vu.
Ah oui.
Moi, je ne l'avais pas vu passer. Et c'est un petit peu mon pain puis mon beurre.
Oui.
Et là, je vois ça atterrir. Je fais coudon. De que c'est? Et je suis allé fouiller dans le sondage. J'ai découvert un certain nombre de choses fortes, intéressantes et même passablement surprenantes. C'est un sondage Ipsos fait pour Global. Qui a été fait entre le 13 et le 16 juillet et qui a été publié le vendredi 20 juillet. Début d'explication, publier un sondage le vendredi, je voudrais pas déranger mes amis sondeurs, mais c'est pas toujours le meilleur moment. Parce qu'on a déjà un petit peu en plein été, la tête un petit peu ailleurs. Rappelons-nous que le 20 juillet, c'est la journée où tout le monde s'en allait en vacances de la construction au Québec. Bien sûr, c'est pas le cas dans le reste du Canada. Ce sondage-là ne contient pas de bonnes nouvelles pour les conservateurs d'Andrew Scheer, qui ont quand même fait une très belle prestation jusqu'à date en 2018 avec, rappelons-nous, à Saint-Hyacinthe, les mamours nationalistes, le rapport d'impôt unique, l'équivalent sans le mot de la souveraineté culturelle pour le Québec, un nombre de choses du genre qui devaient plaire aux Québécois et qui devaient permettre aux conservateurs de ramasser du vote bloquiste pour ce qu'il en restait. Ça a pas vraiment marché, ou en tout cas, ça a pas duré, parce qu'après un bon sondage pour eux autres de la même firme en juin, le Parti libéral du Canada a repris une avance forte, très forte, à travers le Canada, à 39%, avec un progrès par rapport à juin de 6 points. C'est quand même significatif. Les conservateurs ont perdu ces points-là, redescendant à l'échelle nationale canadienne de 5 points à 32%, et le NPD demeure égal à 21%. Au Québec, c'est assez intéressant. Le Parti libéral de Justin Trudeau remonte à 46%. C'est énorme, là, 46%, là, dans un système où on est rendu à plusieurs partis, quatre joueurs sur le terrain québécois. 46%, c'est vraiment beaucoup. C'est plus fort sensiblement que le score de l'élection de 2015. Les conservateurs à 21%, le NPD à 18%, bien sûr, ça se recroqueville. Et le Bloc québécois, dans ce sondage-là, à 10%. Pas de quoi fêter, c'est un score de disparition, mais de façon un peu volontaire. Après le départ de Martine Ouellette au tout début juin, le Bloc est allé se cacher un peu dans les limbes pour penser ses plaies, essayer de reconstruire une organisation. Ça, je pense que ça se fait, là, même de façon étonnante. C'est un départ ou une disparition ou une discrétion volontaire. Mais le Bloc a bien compris qu'eux autres, là, ils peuvent rien faire, dire, espérer, penser avant le 1er octobre. Il faut qu'ils attendent de voir ce qui va se passer à Québec. Parce que pendant longtemps, on disait, ah, si le PQ est faible à Québec, ça va être bon pour le Bloc à Ottawa, les gens vont compenser et vice-versa. Mais si le PQ est tellement faible à Québec avec un Bloc déjà affaibli à Ottawa, probablement que le simple espoir que l'électorat québécois vont compenser l'un par l'autre, ça marchera plus, là. Ça va être une menace de disparition. Donc, il y a un problème et le Bloc doit en prendre acte. Une chose intéressante, c'est que en Ontario, les gens ont élu majoritairement un gouvernement conservateur, bien conservateur de Doug Ford. Là, on se disait, même règle d'espèce de compensation entre une place puis l'autre, est-ce que les gens de l'Ontario vont devenir soudainement plus Parti libéral du Canada au détriment des conservateurs en Ontario, compensé? Ça n'a pas l'air d'être le cas. En apparence, oui, parce que Justin Trudeau a progressé en Ontario avec 6 points repris, récupérés, remonté de 6 points à 39%. Mais les conservateurs aussi ont monté. C'est le NPD qui s'était foiré en Ontario, ce qui fait que ce phénomène-là, cette espèce de regret des Ontariens d'avoir été si gentils avec Doug Ford ne semble pas avoir de ressac dans les intentions de vote qui s'expriment dans un sondage maintenant, là. Le taux d'approbation de Justin Trudeau, 55%.
Ça, c'est
en hausse de 5%. De quoi faire rêver Philippe Couillard.
Mais ça me surprend, par exemple, parce que j'étais sous l'impression, au contraire, qu'avec tout ce qui était arrivé avec Justin Trudeau, son voyage en Inde et différents événements isolés, au contraire, son taux d'approbation est en train de diminuer beaucoup.
Moi, je pensais que sa prestation au G7, il s'est tenu debout, il s'est déguisé en premier ministre, sa prestation à l'OTAN, sa présence en Lituanie, tu sais, il s'est comporté en premier ministre et avait une prestance tout à fait acceptable, mais ça aurait pu être attaqué. Mise en péril par la fameuse petite histoire du Crescent Valley Advance et Rose Knight qui l'accusait ou qui l'aurait accusé de pelotage. Et ça a l'air d'avoir pas pesé pantoute. Et Justin Trudeau avait réussi à faire oublier les affaires de Bill Morneau, les affaires de l'Inde, oublier peut-être pas complètement les affaires d'Aga Khan. En tout cas, ça avait beaucoup moins de poids après la qualité de sa prestation au G7 puis à l'OTAN. Et là, il est resté accroché en haut. 55% d'approbation, c'est une variable très inquiétante pour ses adversaires. Et je me suis demandé, j'en avais déjà parlé avec Philippe Fournier de QC125, quand est-ce que tu nous fais un Canada 328, là, t'sais, l'équivalent des projections sur la base d'un paquet de sondages avec des dizaines de milliers de simulations faites par ordinateur, et il y travaillait. Et je l'avais pas vu passer non plus, mais ça existe maintenant. Mm-hmm. Je suis allé voir parce que quand ce sondage-là est sorti, Philippe Fournier avait déjà monté son modèle, il l'a refait pour y intégrer ce sondage-là. Et ça donne ceci, ça donne, encore une fois, c'est une compilation de sondages avec des projections. Ça donne pour le Parti libéral du Canada, à l'échelle canadienne, 36,4%, 164 sièges. Okay. Minoritaire.
Ouais, c'est ça.
Parti conservateur du Canada, 36,2, 141 sièges. Pas loin derrière, mais pénalisé parce que leur vote est concentré dans l'Ouest et dans les prairies.
Okay.
NPD, 16%, 30 sièges à l'échelle canadienne.
Ouais, c'est pas fort. Non.
Et le Bloc québécois, à l'échelle canadienne, ça veut rien dire, 3,3, mais on s'occupe pas de ça.
Ouais.
Au Québec, compilation de tout ça, 14,1% et probablement pas de siège. T'es en bas de la masse critique qui te donne des chances de gagner un siège.
Ouais.
Donc ça, c'est pas très bon pour le Bloc. Mais si on prend juste le Québec, là, on l'isole. Le Québec voterait libéral à 39,9% pour 61 sièges sur 78.
Hey, surprenant ça.
Les conservateurs, 24,9% pour 15 sièges. C'est un petit peu mieux que maintenant.
Ouais.
Le NPD, 14,7% avec peut-être un siège, c'est pas sûr.
Brosseau,
c'est jamais sûr, de toute façon.
Ouais.
C'est soit Alexandre Boulris, qui est quand même le vrai leader du NPD au Québec, sans l'ombre d'un doute, et ou Ruth-Hélène Brosseau.
Mais elle est très, très aimée dans son comté, apparemment.
Elle est très aimée dans son comté. Ouais. Moi, je ne vois pas qui va tasser Ruth-Hélène Brosseau de son comté. Et le Bloc, 14,1, donc on vient de le dire, aurait peut-être, mais probablement pas un siège, et ce serait dans Bécancour, Nicolas Sorel, le doyen des doyens, Louis Plamondon. Mmh. Ce qui me fascine de tout ça, c'est que le Québec de 2018 reproduirait pour Justin Trudeau ce qu'il avait fait pour Pierre Elliott Trudeau dans les fins des années 70, début des années 80. C'est-à-dire que c'est le Québec qui, malgré des réserves, on va dire ça comme ça, à l'échelle canadienne, c'est le Québec qui maintiendrait au pouvoir Justin Trudeau, envers et contre tout, malgré toutes les attaques, malgré les nationalistes, malgré tout ce que tu voudras.
C'est vraiment particulier, ce sondage-là. Puis il est très crédible. On sait que c'est une compagnie
qui est très, très, très crédible. Et les chiffres que je te donnais à la fin, ce sont ceux qui compilent plusieurs sondages, pas un seul. QC125, donc dans ce cas-ci, à l'échelle canadienne, compile différents sondages. Quand il y en a des vraiment, il y a des firmes qui sont réputées comme pas solides pantoute, là, ils sont pondérés beaucoup plus bas dans le système que des firmes qui sont considérées comme solides. Alors, cet outil-là, c'est quelque chose, ça doit être d'ouvrage à monter, là. Je sais qu'il est travaillant, Philippe Fournier, mais Manny, c'est fou, là. C'est des dizaines de milliers de simulations, oui, faites par ordinateur, mais c'est pas moi qui le programme, l'ordinateur, c'est lui, là. Grosse job, et on se rappellera qu'en Ontario, il est arrivé pas mal pile-poil sur le bon résultat. Tout ça peut toujours changer, puis c'est pas de sa faute. Il fait pas campagne, là. Il fait des compilations.
Ouais, c'est ça. Et François, on a un petit peu moins de 2 minutes pour glisser un petit mot sur le conflit dans Repentigny pour le Parti québécois.
Ben oui, rappelez-vous, en 2008, Scott McKay, ancien chef du Parti vert, avait été recruté par Pauline Marois pour être candidat pour le Parti québécois, et il voulait être candidat dans le comté de l'Assomption. Mais il y avait Jean-Claude Saint-André, un de ce qu'on appelle les purs et durs, qui, maintenant on les appelle les ouellettistes peut-être aussi. Là, mais
ouais, c'est ça.
Jean-Claude Saint-André voulait aussi être candidat et il y avait une gang de, tu sais, une gang de smacks qui mettent des foulards, qui bousculent, qui se prennent avec des drapeaux des patriotes puis qui disent c'est comme ça qu'on va faire le pays, ho, 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 ha, ha. Mais il y en avait une gang avec lui. Et ça s'était fait à coup de, ça s'était réglé à coup de tape sur le nez, mais pas réglé, mais ça s'avait dégénéré à coup de tape sur le nez à l'entrée de l'investiture. Ben, ça arrivera pas cette fois-ci. Il y a un gars, un militant de très, très longue date, un président régional du PQ, il s'appelle Philippe Payette. Il a travaillé à monter le comté pendant 8 mois. Puis ça prend un certain courage, là. Il a monté le comté pendant 8 mois. Et son investiture, qu'il demande depuis le mois de février pour être candidat du Parti québécois dans l'Assomption, était constamment repoussée, jusqu'à ce qu'il comprenne que, dans le fond, le PQ le voulait pas. Et il a fini par dire, pas pas faire de trouble, mais faire un énoncé très clair que je me sens pas bienvenu, pas content, je m'en vais, je mets un terme à de nombreuses années de militantisme politique. Puis ce qui est étrange, là, c'est le PQ a un candidat motivé qui veut faire campagne pour aller essayer de gagner le comté de l'Assomption, mais on va pas se faire d'illusions. Personne. Le député de l'Assomption, il s'appelle François Legault.
Ouais.
Ben, je peux pas croire que le Parti québécois est à la recherche d'une vedette.
Mais non.
Pour aller battre François Legault. C'est dans le pire des cas, il va dire on va mettre une femme, ça va être bon pour nos statistiques féminines, mais ça serait le fun que les candidatures féminines soient autre chose que des statistiques sur
ouais,
une feuille.
Ça. Ouais, alors c'est ça, ça fun que ce soit des élus des fois.
Fait que ça m'est apparu un peu étrange. Au PQ, pas de nouvelles. Ben, y a des gens qui sont en vacances, puis ça, je reprocherai certainement ça à personne. Mais ça m'est apparu étrange et je n'ai pas eu d'explication. Mais au moins. Bonne nouvelle, ça va éviter des tapes sur le nez à l'investiture, mais dans le cas présent, j'ai l'impression que qu'un parti ne peut pas bouder des militants comme ce Philippe Payette, qui semble à tous égards assez irréprochable, à moins qu'il y ait des affaires qu'on ne sache pas, mais il aurait dû le lui dire parce que pour lui, c'est un peu frustrant.
C'est à suivre. François, merci beaucoup.
Ben, on se reparle demain.
À demain, à la même heure, il est 7h49.